RCF.
Depuis la parution du rapport de la CIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels de l'Église, à l'automne dernier, le diocèse de Lille organise des soirées de rencontres pour partager la parole à ce sujet. Des soirées qui soulèvent de nombreuses questions chez les pratiquants. Pour tenter d'y répondre, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir l'évêque de Lille, Monseigneur Ulrich. Monseigneur Ulrich, bonjour.
Bonjour.
Alors, ce sont des soirées souvent remplies d'émotions, mais aussi de tristesse et de colère, et vous avez pu le voir puisque vous animez certaines de ces soirées. Les participants sont souvent choqués par l'ampleur des chiffres. Mais il y a d'autres sentiments qui jaillissent. Un sentiment que parfois l'Église ne réagit pas, que le soufflet est retombé. Et j'ai même entendu, on a l'impression d'être une souris qui doit avaler un éléphant. Alors vous, Monseigneur Ulrich, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces catholiques du diocèse qui s'expriment ?
D'abord, ce n'est pas l'impression que j'ai eue en participant à l'une ou l'autre des... Alors, je n'ai pas tout entendu, toutes les réactions. Donc
alors, moi, j'étais à la Madeleine. C'était Mgr Potvin qui a animé cette soirée-là.
Et donc, il est possible qu'on ait le sentiment que ça s'arrête. Mais c'est comme toujours dans la façon de recevoir l'information dans le monde d'aujourd'hui. Une affaire pousse l'autre. Et donc, l'affaire du rapport de la CIAZ a créé une émotion intense au début du mois d'octobre. Ensuite, l'Assemblée des évêques au mois de novembre y a travaillé fort et on a été très... Enfin, je pense que tout le monde a été très saisi à la fois des décisions que nous avons prises, des gestes que nous avons faits, de la demande de pardon que nous avons publiquement, que nous avons faite devant le sanctuaire, devant les églises, là, sur l'esplanade, devant les églises du sanctuaire de Lourdes. Des prises de parole, des prières, des temps de silence, de reconnaissance à genoux.
Mais depuis, en interne à Lille, sur le diocèse, comment travaillez-vous interne ?
Tout cela, il y a ces gestes-là du début, et puis après, il y a tout un travail qui est forcément un travail de longue durée. Parce qu'il s'agit de mettre en œuvre un certain nombre de décisions que nous avons prises et qui sont connues, qui ont été publiées. Et donc ça, ce travail, il se fait forcément un peu lentement, premièrement.
Mais en quoi ça consiste justement, ces grandes décisions ?
Les décisions, donc il y a eu la création d'un tribunal pénal ecclésiastique et national. Bon, c'est en train de se faire. On a promis qu'il existerait au mois d'avril qui vient. Voilà. Mais il faut trouver pour ça des magistrats, des avocats, etc., qui constituent la cour. On a créé le tribunal, mais il faut le remplir maintenant. Deuxièmement, la constitution d'un fonds pour aider, d'une part, à l'indemnisation promise des victimes qui le demanderont.
Alors ça, c'est un fonds qui est national, c'est ça ?
Tout ça est national, oui.
Et alors, aujourd'hui, par exemple, le diocèse de Lille est en train de réfléchir sur comment l'abonder ?
Et c'est fait.
Voilà. C'est fait.
Le fonds est abondé à hauteur de 20 millions, comme nous avions promis. Donc c'est fait.
Les 20 millions, ça vient de quoi ? Du diocèse de Lille ou c'est national ?
C'est national.
C'est national.
C'est national. Et la participation du diocèse de Lille, c'est 2%, voilà, de cette réalité. Ça veut dire que j'ai choisi que le diocèse de Lille donne plus que d'autres, parce qu'il a quelques capacités un peu plus importante que d'autres diocèses. Et j'ai pensé qu'il y a 100 diocèses, donc normalement on aurait pu se contenter d'1%. D'autre part, il y a un certain nombre de gens, d'associations, de groupements, etc., qui ont décidé de l'abonder. Nous ne sommes pas les seuls.
Donc on est autour de 400 000 euros à peu près.
Voilà, oui. Et puis les prêtres, les évêques eux-mêmes en tête. Je sais que la plupart des évêques l'ont fait, et je l'ai fait. Nous avons participé à hauteur de ce que nous pouvions chacun. Voilà.
Est-ce que, comme dans d'autres diocèses, il y a eu la vente de biens immobiliers ?
Mais non. C'est une image qu'on donne et on a cherché à savoir s'il y avait eu des ventes. Il y a eu des ventes parce qu'il y a tous les ans des ventes de biens immobiliers, des acquisitions qui se font parce que de temps en temps il faut acheter un appartement pour y loger des personnes, de temps en temps il faut vendre une maison qu'on a reçue et qui ne nous sert à rien, etc. Ça, c'est en permanence qu'il y a des voilà. Mais donc on a pris sur, j'allais dire, des réserves. Voilà. En attendant qu'il soit bien clair que nous, que il est admis que nous le fassions. Voilà. Donc ça c'est.
Et 20 millions d'euros, ça devrait être suffisant aujourd'hui pour indemniser des.
Ben, je ne le sais pas. C'est en tout cas, nous avons dit dans un premier temps, nous abondions ce fonds à cette hauteur, que nous voulions qu'il atteigne cette hauteur, parce qu'il s'agit à la fois d'indemniser, d'autre part de permettre des actions de prévention. De financer des actions de prévention, de financer le tribunal que j'ai dit tout à l'heure, voilà, de financer l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation dont la création a été actée le 17 janvier dernier, il y a 15 jours, et j'ai écrit à toutes les personnes qui se sont présentées, à moi et au père Cazin, dans notre cellule, qui se sont présentées depuis 3-4 ans, j'ai écrit à toutes ces personnes en disant, ça y est, si vous le voulez, vous pouvez vous présenter à cette instance nationale pour déposer de nouveau votre témoignage. Et voilà. Je leur ai dit aussi, si vous avez déjà fait un témoignage auprès de la CIAZ auparavant et que ce que vous vouliez, c'était que votre nom de victime soit connu et que soit acté quelque part et que le nom de l'agresseur soit aussi acté quelque part, sachez que c'est déjà fait. C'est-à-dire que la CIAZ l'a fait, l'a répertorié une partie de son rapport et de ses archives, et que ces archives sont aujourd'hui déposées aux archives nationales. Donc, ça n'est pas publié, et heureusement, le nom de toutes les victimes n'a pas à être sur tous les murs de chez nous.
Mais en tout cas, c'est répertorié, recensé.
Mais c'est écrit, c'est recensé, et c'est conservé comme les archives nationales savent conserver des documents, c'est-à-dire c'est conservé de façon sécure. Voilà.
Et cette instance qui a été créée le 17 janvier...
Présidée par Madame Derain de Vaucresson, oui, qui est une ancienne magistrate, qui est une ancienne défenseure des droits des enfants.
Et elle, sa mission dans cette instance ?
Sa mission, c'est de recueillir des témoignages, de permettre aux personnes d'entendre et d'entendre qu'on leur dise qu'elles sont reconnues comme des personnes victimes, voilà, et de les aider, soit à aller vers des soins si elles ne l'ont pas encore, soit de leur fournir une indemnisation financière, une réparation financière si elles le demandent, voilà, soit toute autre chose qu'elles peuvent demander. Voilà.
Donc c'est une instance qui est rattachée à l'Église.
C'est une instance indépendante dont nous avons décidé la création, c'est-à-dire nous sommes consentés de dire nous voulons une instance, nous en confions la présidence à une personne reconnue comme indépendante, une magistrate, et elle constitue son instance avec les personnes qu'elle veut et elle organise elle-même son travail et ça, on lui a donné une lettre de mission en disant nous attendons que cela réponde aux personnes qui se sont senties blessées et qui veulent être reconnues comme personne victime.
Voilà. Donc en fait, c'est un peu le prolongement de la CIAZ et quelque part le prolongement aussi de ce qui se passe dans les cellules d'écoute aujourd'hui, tant au niveau du diocèse que du CHR de Lille.
Oui, bien sûr. Et donc, alors maintenant, au niveau diocésain, la cellule d'écoute qui était composée jusqu'à présent du vicaire général et de moi-même et de deux personnes.
Vicaire général, donc c'est Bruno Cazin.
Père Cazin et moi-même, donc. Et de deux personnes laïques. Il y a une des personnes qui a quitté le diocèse de Lille, donc il fallait le reconstituer et même un peu l'amplifier avec des personnes davantage, peut-être, moi-même, beaucoup voulaient voir l'évêque, et à défaut, le vicaire général. Mais il y a des personnes qui ne veulent voir ni prêtre ni évêque, et donc qui préfèrent s'adresser. Et puis il y a des personnes qui préfèrent rencontrer une femme qu'un homme, enfin, etc. Donc, et en même temps, nous avons pensé que c'était bien qu'il y ait des personnes un peu spécialisées dans les questions juridiques et d'autres spécialisées davantage dans les questions psychologiques.
Voilà. Donc la cellule va être renforcée, en fait.
Elle est renforcée. Je dois rencontrer donc cette cellule renouvelée la semaine prochaine, je crois, pour mettre un point de départ à cette nouvelle cellule. Donc ça fait partie des décisions que nous essayons de mettre en œuvre. Alors nous le faisons un peu jour après jour. Alors ça, c'est les. Nous allons avec cette cellule aussi voir comment nous pouvons refaire des nouvelles formations. Il y en a déjà eu depuis 5 ans.
À l'attention des prêtres,
à l'attention des prêtres et des laïcs animateurs en relation avec des jeunes, etc. Donc il y a déjà eu, avec le concours de l'URSSAV, qui est cette instance, cette cellule de soins de l'hospitalisation publique du CHRU, donc cette cellule de soins dirigée par le docteur Séguret, psychiatre, donc avec cette personne, nous menons des actions de formation et régulièrement, chaque année, elle vient faire le point, non pas des personnes que je n'ai pas à savoir qui elle reçoit, mais des réflexions qu'elle se fait à l'occasion de toutes les personnes qu'elle reçoit.
Mais vous voyez, on voit bien que l'Église avance, mais c'est vrai que ces questions-là ont été posées lorsque j'étais présente à cette soirée-là. Nous n'avions pas ces réponses-là. Donc je pense que c'est important aussi pour les chrétiens, les pratiquants,
bien
les catholiques, d'entendre aussi certaines réponses et de voir que ça avance.
Oui, bien sûr.
Alors, durant ces soirées aussi, il y a des choses qui sortent spontanément. Ouais. Certains évoquent la difficulté aujourd'hui d'appeler un prêtre père, un évêque monseigneur. Est-ce que cela vous choque? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de continuer à fréquenter le prêtre de sa paroisse, mais en l'appelant par son prénom et son nom de famille. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ça fait longtemps que ça existe.
Mais c'est bien de vous l'entendre dire.
Ça fait longtemps que ça existe. Voilà. Je veux dire, il y a des personnes qui veulent appeler l'évêque monseigneur, mais qu'il le fasse. Il y a des personnes qui veulent l'appeler autrement, mais qu'il le fasse aussi. Peu importe. Pour moi, c'est peu importe. Peut-être qu'à des personnes, ça importe beaucoup, mais qu'elles fassent selon ce qu'elles veulent.
Alors, j'ai aussi entendu beaucoup de confiance durant cette soirée dans l'Église, qui a osé briser le silence. Et certains laïcs disaient « L'évêque ne doit pas oublier que nous sommes tous prêtres, évêques et rois. Les laïcs peuvent l'aider, qu'il ne l'oublie pas. » Laurent Ulrich, les laïcs ont-ils aussi un rôle à jouer pour restaurer cette confiance et réformer la gouvernance de l'Église?
Mais bien sûr, mais ça, on ne réforme pas une gouvernance comme ça en claquant dans les doigts. C'est toute une manière d'agir. Il me semble que depuis que je suis ici, j'ai fait bouger un petit peu les lignes sur ce sujet. La grande participation au conseil diocésain de pastoral dans lequel normalement 150 personnes environ, ça veut dire qu'on n'imagine pas que ce sont tous des prêtres. Forcément, ce sont beaucoup de laïcs, ce sont des responsables diocésains de l'Église. Ce sont des personnes qui s'occupent aussi bien des finances que de la catéchèse, que de l'accueil des catéchumènes adultes, que de la liturgie, que de la pastorale des jeunes, etc. Tous ces gens sont extrêmement nombreux à faire marcher l'Église. Et ils ne la font pas marcher au doigt et à l'œil de ce que l'évêque leur dit. L'évêque, il essaie de les mener sur le chemin du Christ. Bon, et il y a tout un tas de choses qui se font sans que l'évêque intervienne, heureusement. J'espère que l'ensemble des instances qui sont mises au service, des mouvements et des paroisses, toutes les équipes qui font vivre une paroisse, toutes les équipes qui font vivre un mouvement spirituel ou d'action catholique des chrétiens, ce sont des équipes, essentiellement des équipes de laïcs. Et je crois que ça fait bouger l'Église. Et je suis personnellement adepte de beaucoup écouter, beaucoup consulter, beaucoup mettre entre les mains de ceux qui aiment l'Église et veulent la faire avancer, des réflexions, des échanges, etc., qui permettent de nourrir une animation juste de la vie de l'Église.
J'ai pu rencontrer un pratiquant qui avait été abusé à l'âge de 10 ans par un chef scout. Alors aujourd'hui, il reconnaît le courage de l'Église et il demande un parcours spirituel pour les victimes. Est-ce que ça existe? Pour les aider demain à pardonner, pour les aider aussi à sortir de cette culpabilité. Oui. Est-ce que ça existe aujourd'hui?
C'est-à-dire, le chemin spirituel, d'abord, je pense que pour beaucoup, il doit commencer par être psychologique. Faut non pas opposer l'un et l'autre chemin, mais pour beaucoup, le chemin spirituel deviendra possible quand L'apaisement psychologique sera un peu, comment dire, mis en route, hein, parce que il y a une chose que je comprends à travers cette souffrance des personnes, c'est que la blessure a été profonde, enfouie, et que après des années, elle ressort. Voilà. C'est-à-dire, elle se rouvre, semble-t-il. Mais une blessure profonde, voilà, est-ce qu'elle est bien nettoyée? Est-ce qu'elle est, voilà. Et on peut comprendre que cette blessure, elle ne puisse pas, simplement parce qu'on a été écouté une fois, mais c'est déjà pas mal, beaucoup, beaucoup de personnes qui sortent de l'écoute par quelqu'un de la cellule d'accueil, par exemple, sont reconnaissants et disent... bon, je comprends que je ne vais pas m'en sortir tout de suite, mais déjà le fait de vous avoir entendu me dire que j'étais effectivement une victime, que étant une victime, je ne suis pas d'abord coupable de ce qui m'est arrivé, que ça n'est pas de ma faute si ce qui m'est arrivé.
Et oui, il faut sortir de tout ce schéma-là, en fait.
Sortir de tout ce schéma-là, les schémas psychiques, c'est des schémas de longue durée, hein.
Avant de se quitter, on peut peut-être redire quel contact actionner si on est victime, vers qui se tourner?
Alors, premièrement, on peut se tourner, si on a le sentiment d'être victime redevable, qui peut se présenter à la justice, c'est-à-dire une personne qui a subi des atteintes sexuelles et qui a moins de 38 ans, c'est-à-dire 20 ans après la majorité, ou qui a eu la certitude malheureuse d'avoir été violée. C'est jusqu'à 48 ans, 30 ans après la majorité. Si c'est le cas... aller se tourner vers le procureur de la République. Et même si on a dépassé l'âge, parfois c'est utile parce que le procureur peut reprendre d'autres affaires plus récentes et avoir des preuves supplémentaires et inculper quelqu'un. Voilà. Deuxièmement, on peut faire appel à l'une des cellules d'écoute de nos trois diocèses.
Voilà. Écoute.victime au pluriel @lille.catholique.fr.
Voilà, et c'est la même chose pour Arras.
Tout à fait.
Et pour Cambrai, hein, c'est le même type d'adresse. Troisièmement, on peut aussi toujours se présenter à l'URSSAV, et c'est marqué aussi sur nos sites, l'URSSAV qui est cette unité régionale de soins aux auteurs et aux victimes de violences sexuelles.
Voilà, hein, c'est le CHU de Lille, et c'est le 03 20 44 44 16. Merci beaucoup Laurent Ulrich, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'évêque du diocèse de Lille. Avec vous, on a poursuivi cet échange sur le rapport de la CIAZ. C'est un peu le prolongement de cette soirée que vous proposez. Jusque quand on peut participer?
Je pense que moi, je n'ai pas voulu imposer des réunions de ce type obligatoires dans tous les doyennés, etc. Mais je vois que des paroisses, des mouvements et des doyennés les organisent. Et dans quelques cas, on m'invite à y participer. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup, Laurent Ulrich.